Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Certains jours filent sans laisser de traces dans notre mémoire, alors que d'autres journées nous marquent pour le restant de nos jours. Pourquoi conserve-t-on certains souvenirs? Le souvenir d'un baiser d'été, de la première fois où l'on a mangé une mangue, le souvenir de cette marche en forêt à l'automne 1985, cet après-midi pluvieux où l'on a lu d'une traite les quatre mousquetaires, ce jour de mariage, un samedi d'hiver, le souvenir de cette odeur de crêpe en classe de CP. Pourquoi certains d'entre nous parviennent à oublier les mauvais souvenirs pour ne conserver que les plus heureux? Quel lien existe-t-il entre notre bonheur présent et le regard que nous portons sur notre passé? Comment ne pas se noyer dans la nostalgie des jours heureux? Comment se créer de beaux souvenirs à coup sûr? Voici quelques questions que nous poserons à notre invité danois, Meg Viking. Nous verrons également avec deux spécialistes comment fonctionne la mémoire épisodique et la mémoire olfactive. Et vous, quels sont les plus beaux souvenirs qui vous accompagnent encore et toujours? Que faites-vous pour vous créer des souvenirs merveilleux? 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et l'appli France Inter. Vers 10h35, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce, qui évoquera un sujet qui provoque souvent de mauvais souvenirs chez beaucoup d'hommes, l'éjaculation précoce. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Allez, Rémi.
Comment se fabriquer de beaux souvenirs? C'est la question que nous posons à notre invité. Bonjour Meg Viking, bienvenue en France.
Good morning, great to be here.
Vous êtes le président de l'Institut de recherche sur le bonheur à Copenhague, au Danemark, et nous avons eu le plaisir de vous accueillir pour évoquer il y a 2 ans le bonheur à la danoise et le mode de vie afférent, c'est le hygge. Hein, c'est ça, le fameux hygge qui connaît un succès planétaire. Rappelez-nous peut-être en quelques mots ce qu'est le hygge. Tout le monde connaît maintenant. Hein.
Right. Yes, I can.
Oui, le hygge, effectivement, tout le monde connaît. La définition la plus simple, c'est l'art de créer une atmosphère conviviale, agréable, mais c'est des moments où on est simplement heureux d'être avec d'autres gens, avoir une conversation avec eux, se détendre. Et là, évidemment, on peut créer ça un peu partout dans le monde, ici en France comme au Danemark. Je me souviens en particulier d'une... C'est une Française qui m'avait écrit, elle avait lu le bouquin, elle m'a dit, moi, toute ma vie, est une série de Hugo, je savais pas que ça s'appelait comme ça, c'est tout. Comme Monsieur Jourdain. Je faisais du Hugo sans le savoir, mais ça peut être le simple fait de passer une après-midi avec ses enfants, les enfants qui mangeaient biscuits, une tasse de thé. Et là, pour elle, c'était un après-midi paresseux. Maintenant, elle appelle ça un après-midi Hugo. Donc, elle enlève la culpabilité associée à ça.
Alors, Meg Viking, vous venez de publier chez First Edition l'art de se créer de beaux souvenirs. Comment créer et garder en mémoire les moments heureux. Alors vous débutez votre livre en citant l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Je le cite, « On ne se rendait pas compte qu'on se fabriquait de beaux souvenirs. Tout ce qu'on faisait, c'était s'amuser. » Et ce grand penseur, ce n'est pas Spinoza, mais c'est... non, parce qu'il n'est pas du XXe siècle. Christy Lapelle-Edouel, vous me regardez
Spinoza.
Avec... Christy Lapelle-Edouel, chef de rubrique à Psychologie Magazine. Citons Wittgenstein, voilà, grand penseur du XXe siècle. Ce penseur, c'est Winnie l'Ourson, Meg Viking. Jusqu'à l'âge de 40 ans, vous étiez un peu comme Winnie l'Ourson. Je le recite, on ne se rendait pas compte qu'on se fabriquait de beaux souvenirs, tout ce qu'on faisait c'était s'amuser.
Exactly. But then I turned 40.
Mais oui, exactement. Et puis donc est arrivé l'âge fatidique de 40 ans. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant statistiquement. J'ai atteint la moitié de mon parcours de vous, puisque l'âge de l'espérance de vie est autour de 80 ans. Et donc là, je me suis un peu retourné sur le passé pour voir quels étaient les souvenirs heureux et comment me servir de cette connaissance, de cette mémoire pour créer du bonheur à l'avenir.
La grande question que vous posez, Meg Viking, c'est de quoi sont faits nos souvenirs?
C'est la question que nous nous sommes posées. Et ce que nous avons fait à l'Institut de recherche sur le bonheur, c'est de collecter plus d'un millier de souvenirs heureux du monde entier, donc le Danemark, mais également la France, l'Irak, la Chine, les États-Unis, pour ne citer qu'eux. Et on a vu que ces souvenirs se ressemblaient beaucoup quand il s'agissait de souvenirs heureux, qu'on soit français ou danois, on est surtout des êtres humains avec les mêmes émotions. Et ce qu'on peut tirer de cette étude, c'est qu'il y a beaucoup de choses en commun dans les ingrédients qui constituent le bonheur des gens et leurs souvenirs. Pour moi, lorsque j'ai écrit le bouquin, un moment d'épiphanie, en quelque sorte, c'était de me rendre compte que la mémoire n'est pas un phénomène aléatoire sur lequel on n'a aucune maîtrise. Au contraire, on a une certaine maîtrise de sa mémoire. On peut déterminer ses souvenirs, je peux déterminer ce que moi-même, ce que mes amis se rappelleront à l'avenir.
Pourquoi les souvenirs recèlent des super pouvoirs?
Super pouvoir parce que les souvenirs, la mémoire vous permet de voyager dans le temps. Vous sentez quelque chose, vous goûtez à quelque chose, vous entendez une chanson que vous entendiez à l'âge de 16 ans et vous êtes transporté en quelque sorte dans le temps. Et puis la mémoire a une incidence sur la façon dont nous nous sentons, ou l'image, l'idée, l'identité que nous nous faisons de nous-mêmes. La mémoire, c'est également le ciment qui nous relie les uns aux autres, les souvenirs partagés en particulier. Donc il y a vraiment un pouvoir très puissant sur notre vie affective, mais également sur nos espoirs, nos rêves pour l'avenir.
Alors dans votre livre, vous évoquez surtout la mémoire épisodique, cette mémoire qui permet de voyager dans le temps. C'est une mémoire plus ou moins ordonnée, sensorielle, subjective.
Parce qu'il y a différents types de mémoire à long terme. Il y a ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Alors là, il s'agit de, par exemple, savoir que Copenhague est la capitale du Danemark, par exemple. Mais la mémoire épisodique, si vous êtes rendu à Copenhague, comme certains d'entre vous, vous vous rappellerez votre voyage à Copenhague. Donc vous aurez une relation plus particulière, peut-être les couleurs, les images, les sons, les odeurs que vous avez connues là. Et là, vous pouvez retrouver cette expérience. Donc ça, c'est la différence entre la mémoire sémantique et la mémoire épisodique.
Bonjour Alice Gomez.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes maître de conférence à l'Institut des sciences cognitives. La mémoire épisodique est très complexe. Comment fonctionne-t-elle?
Alors la mémoire épisodique, comme les différents systèmes de mémoire dont nous a parlé Monsieur Wiking, c'est une mémoire à long terme qui va s'organiser en trois mécanismes. Un mécanisme tout d'abord d'encodage, c'est-à-dire qu'on va être confronté à un moment particulier de notre vie, à une information, et on va finalement prendre l'ensemble des informations qui nous entourent, donc les informations sensorielles, les informations auditives, olfactives. Et elle va être filtrée par un système qui est le système attentionnel. Donc, ce sur quoi on portera notre attention va effectivement déterminer ce qu'on va pouvoir encoder. Et ensuite, on va pouvoir consolider ou pas cette information pour la récupérer ultérieurement.
Cette mémoire épisodique, on l'appelle également mémoire autobiographique.
Alors, c'est pas exactement la même chose, parce qu'on peut avoir effectivement dans la mémoire autobiographique, donc la mémoire qui concerne vraiment l'information sur nous, donc sur notre identité, elle peut être aussi d'ordre sémantique, donc cette mémoire à long terme dont nous parlait Monsieur Wiking, c'est-à-dire une connaissance. Par exemple, je sais que je suis une personne émotive, anxieuse. Ça, c'est un savoir sur nous-mêmes, et c'est différent de la mémoire épisodique qui, elle, porte sur un moment donné de notre vie, un moment précis, un moment heureux, particulier, qui a lieu dans l'espace et dans le temps, et qui va nous permettre justement ce voyage mental dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de revenir dans ce lieu et ce temps particulier. C'est ça la mémoire épisodique.
Et est-ce que cette mémoire épisodique est plus sensible à l'oubli que la mémoire sémantique, par exemple ?
Alors la grande différence entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, c'est que par définition, un épisode ne va avoir lieu qu'une seule fois. Mmh. Et le principe justement de la mémoire, c'est d'encoder et d'oublier tout ce qui ne sera pas utile pour notre futur. Mmh. Alors ce ne sera pas forcément plus sensible à l'oubli que la mémoire sémantique, mais l'avantage de la mémoire sémantique, c'est que ça va concerner souvent des choses qui ont eu lieu plusieurs fois. Et des choses qui ont lieu plusieurs fois dans notre vie, c'est souvent des choses qui ont un intérêt, une utilité pour notre futur et qui va être nécessaire à notre organisme de tenir compte parce que ça veut dire que c'est utile pour notre vie.
Pourquoi, je prends un exemple personnel, pourquoi est-ce que je me souviens précisément qu'en classe de CP, notre institutrice avait préparé des crêpes en cours et je me souviens du goût de ces crêpes, mais je ne me souviens pas forcément du nom de mes camarades à ce moment-là.
C'est vrai que c'est très intéressant. Donc au moment de l'encodage, probablement, le premier point dans ce que vous racontez, ce sont des crêpes, c'est probablement un moment qui a évoqué beaucoup une émotion très très positive. Et donc le phénomène d'encodage en mémoire, il est lié très fortement à la structure hippocampique qui est au centre de notre cerveau, qui est elle-même reliée à une structure un peu archaïque qui est le système limbique, l'amygdale. Mmh. Et donc quand on a un événement très heureux, nos émotions elles vont venir activer notre système amygdalien et du coup il va moduler la manière dont on va se souvenir de cette information parce qu'on va mieux le consolider en mémoire. Donc ça c'est quelque chose qu'on sait bien, les émotions modulent la manière dont on mémorise une information.
Peut-on dire, Alice Gomez, que la mémoire épisodique est l'un des fondements de notre identité ?
Oui, alors effectivement, notre identité, elle va se fonder sur des épisodes de notre vie, tout à fait. Donc la mémoire autobiographique va être associée à ces éléments-là, sans aucun doute, oui.
Restez avec nous, Alice Gomez, on va évoquer différents aspects de ce qui fonde nos souvenirs tout au long de cette émission. Meg Viking, quel est le plus beau souvenir de votre vie ? C'est une question très difficile, mais quel est celui qui vous accompagnera peut-être jusqu'à votre lit de mort ?
Il faudrait choisir parmi plusieurs candidats. Il faudrait savoir quel était le moment le plus heureux ou le plus beau souvenir. Je dois dire que parmi les candidats, disons, remonte à quelques années, lorsque j'étais à Édimbourg, en Écosse, avec ma petite amie, et nous nous promenions, nous rentrions à la maison, à l'hôtel où nous habitions à l'époque, et c'était la toute première fois que nous nous rendions à Édimbourg, et les premières expériences ont tendance à rester dans la mémoire de manière plus ferme. Et puis, en rentrant, tout d'un coup, on a vu un magnifique feu d'artifice dans le ciel, avec un concert de cornemuse. Donc c'est multisensoriel puisque le ciel était animé, était illuminé plutôt par ces feux d'artifice, il y avait des cornemuses et puis j'embrassais mon amie, enfin je la tenais dans mes bras et puis elle était très très heureuse, c'était un moment très spécial pour elle et là il y avait un lien très fort avec elle, enfin on a partagé ce moment de manière très intense et bon c'était quelque chose à la fois simple et spectaculaire. Et ce que nous voyons dans nos études, c'est que souvent ce sont les petites choses de la vie qui restent le plus longtemps.
Christine Lapelle-Edouard, je rappelle que vous êtes chef de la rubrique livre à Psychologie Magazine. Vous avez lu L'Art de se créer de beaux souvenirs de Meg Viking.
Oui, je l'ai lu. Et j'ai trouvé que c'était un livre... Alors, il y a deux choses. D'abord, je me suis dit, voilà ce que j'appelle un livre produit, entre guillemets, c'est-à-dire un livre très bien marketé, très joli, mais pas forcément avec un fond extraordinaire. Il est très beau, ce livre, et il est conçu, il est très malin, il est conçu comme une page Facebook, c'est-à-dire avec plein d'illustrations, plein de choses partout dans tous les sens qui attirent notre œil. Et puis je l'ai lu. Et là, j'ai trouvé plein de choses. Alors, ce qui est très malin dans ce livre, c'est que Meg Viking a réuni toutes sortes d'informations qui sont disponibles partout ailleurs. Il suffit d'aller sur Internet pour trouver des tas de choses sur la mémoire, sur les différents types de mémoire. Mais il a tout réuni de manière très attrayante plutôt amusante avec plein d'anecdotes personnelles, etc., qui permettent de rentrer très facilement et de comprendre par l'exemple, parce qu'on se réfère à soi en lisant ce livre, comment fonctionne la mémoire et comment en effet on peut réussir à se fabriquer de jolis souvenirs, de beaux souvenirs. Alors maintenant, savoir si se fabriquer entre guillemets des beaux souvenirs est nécessaire pour un meilleur bien-être ou un épanouissement personnel, je le suppose, on peut tous le penser de manière intuitive. Mais voilà, il donne quelques pistes, quelques clés. Je pense que tout le monde peut s'en saisir avec bénéfice et profit. Alors, il y a une chose que je voudrais juste ajouter, c'est qu'il a une qualité, c'est qu'il remet dans le bon sens le terme de nostalgie. Oui. En France, le terme de nostalgie est très souvent teinté d'une légère, comment dire,
acrimonie.
Un petit peu on voit ça un peu de manière négative. C'est pas très bien d'être nostalgique, c'est regarder derrière. Nous vivons dans une société où il faut toujours, l'injonction, c'est aller de l'avant, ne regardez pas en arrière. Là, c'est le contraire. On nous propose la nostalgie à des effets bénéfiques.
On reviendra tout à l'heure sur la question de la nostalgie. Allez, quels sont les plus beaux souvenirs que vous conservez précieusement et que faites-vous pour vous créer des souvenirs merveilleux? 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main Vous Fasse et l'appli France Inter. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter un titre de 1936. Cette année-là naissait Georges Perec et le pape François et disparaissait Rudyard Kipling. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur, message à Kate Pliboutique, et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie, partout il y a de la... Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
Charles Trenet, il y a de la joie.
Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre.
Grand bien vous fasse.
Ma mère a dit souvent, si on était toujours heureux, ce serait le bonheur.
Sur France Inter.
10h25, comment se créer de merveilleux souvenirs? Notre invité, c'est le Danois Meg Viking, qui publie l'art de se créer de beaux souvenirs. Alors Meg Viking, votre livre est un éloge de la nostalgie, une nostalgie ouverte, positive. Rappelons que la nostalgie, c'est un terme emprunté au latin scientifique moderne, nostalgia, créé par le médecin suisse Johannes Hofer. Nostalgia, de nostos, qui veut dire retour, et algos, mal, souffrance. La nostalgie, c'est une émotion mixte qui mêle joie et tristesse. Quels sont les bienfaits pour vous de la nostalgie?
It's true, there is this bittersweetness.
Alors c'est vrai que la nostalgie est à double tranchant, elle est un peu aigre-douce comme on dit. D'un côté vous avez la joie d'avoir connu des moments heureux, mais ces moments maintenant ont disparu, sont révolus, donc il y a de la tristesse aussi. Alors c'est vrai que chacun d'entre nous est nostalgique à un moment où on est nostalgique des moments où nous étions heureux, où nous étions aimés, en particulier lorsqu'on se retrouve seul, solitaire, où on revit des expériences heureuses, où on n'était pas seul, où on avait un sens de partage avec les autres, où on était aimé. Donc c'est une façon quelquefois de mitiger les explosions, les émotions négatives, comme la solitude ou le fait de l'absence d'ambition, mais c'est un outil très puissant. On s'en sert notamment dans la pub, dans les campagnes politiques, électorales. Toute la campagne de Trump s'appuyait justement sur la nostalgie, hein. Rendre sa grandeur à l'Amérique, la grandeur passée, alors on ne sait pas quand elle avait lieu, c'était quelquefois dans le passé, mais quand on ne sait pas, mais encore une fois c'est une force très puissante parce qu'on se tourne vers le passé avec des lunettes teintées de rose et donc tout a l'air plus beau dans le passé et ça c'est une nostalgie qui peut amener quelqu'un comme Trump au pouvoir.
Christine Appel-Edouard de Psychologie Magazine.
Oui, c'est vrai que la nostalgie vue sous cet angle peut être un peu pesante, pour ne pas dire plus, mais dans le même temps, la nostalgie, en tout cas au niveau individuel, est aussi une manière, je pense, en se retournant vers le passé, d'abord peut-être de comprendre un certain nombre de choses de ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui, et aussi de reprendre, je pense, des forces sur le plan affectif. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans le livre, hein, en se créant des souvenirs heureux vers lesquels on peut se retourner, donc en étant nostalgique, permet de reprendre courage, de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie, tout simplement, pour pouvoir affronter et continuer à vivre dans l'instant présent. Donc, nous ne sommes pas des bêtes uniquement du moment, sinon nous ne serions pas des êtres humains. Enfin, vraiment, une des caractéristiques humaines, c'est justement la mémoire à long terme. Les animaux aussi ont une mémoire, mais on ne sait pas très bien encore comment elle fonctionne. Mais nous, en tout cas, on sait que notre identité est en grande partie forgée par nos souvenirs, et il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les malades d'Alzheimer ou le problème des démences, où une partie de la personnalité disparaît, s'évanouit, et c'est un drame. C'est un drame pas seulement pour la personne, mais c'est un drame pour tout l'entourage.
Alice Gomez, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut des sciences cognitives. La mémoire épisodique, c'est l'un des ferments de la nostalgie.
Alors effectivement, on va s'appuyer sur ces souvenirs épisodiques pour pouvoir réévoquer quelque chose de notre passé. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que dans notre présent, on sait bien qu'on va avoir un phénomène d'atténuation hédonique, c'est-à-dire que les bonheurs du quotidien, assez rapidement, on s'y habitue. Et puis, dans des situations individuelles, avec des personnes qui peuvent avoir des caractéristiques un peu tristes, des personnes dépressives, on a une orientation qui est tournée plutôt sur des éléments qui sont négatifs. Et le fait d'avoir dans cette possibilité peut-être d'orienter son attention sur des souvenirs dont on sait qu'ils ont une valence positive, qui sont émotionnellement chargés d'éléments positifs, c'est une manière de recharger en fait cette charge affective positive qui peut effectivement donner des forces, comme l'expliquait le Meg Whiting, pour se projeter dans le futur. Donc ce qui est intéressant, c'est que la mémoire épisodique, elle est non seulement à la base de nos souvenirs, mais aussi de notre projection dans le futur. C'est ça qui est vraiment intéressant.
Merci beaucoup, Alice Gomez, d'être intervenue ce matin. Meg Whiting, comment faire pour ne pas se noyer dans la nostalgie?
Tout simplement parce qu'il faut aussi vivre dans le présent et que le présent a une influence évidente sur notre façon d'être. Il y a une chose qu'on peut faire pour éviter justement de s'en tenir simplement aux beaux souvenirs et les concilier avec l'instant présent, c'est l'outil tout bête de l'attention, de la concentration sur le moment, l'observation. Il y a pas longtemps, je parlais à une dame, une polonaise, qui qui m'a donné un exemple de sa propre vie. Il y a des années de ça, quand cette dame n'avait que 8 ans, elle dînait avec sa maman et sa sœur, et on leur servait un plat traditionnel polonais, il y avait des fleurs jaunes sur la table, c'était un moment très heureux. Et leur maman s'est tournée vers les filles en disant « J'espère que vous vous souviendrez de ce moment ». Et là, 30 ans plus tard, elle se souvient encore de cet incident parce que sa maman l'a obligée à penser à se concentrer sur le moment. Et c'est une façon de préserver ses souvenirs. Alors, il faut donc activement le faire. Alors, si à chaque fois que vous dînez en famille, vous dites « J'espère que vous vous souviendrez de ce moment », vos enfants vont vous demander de vous taire. Mais de temps en temps, oui, ça peut être très utile, très puissant.
Pourquoi cultiver de beaux souvenirs est-il essentiel pour notre santé psychique ?
Eh bien, comme Alice l'a dit à l'instant, je pense notamment aux patients déprimés qui ont du mal à être heureux au quotidien. Ces gens ont du mal à se souvenir de quoi que ce soit, ou en tout cas de souvenirs heureux. Et donc, si l'on est en mesure d'évoquer des souvenirs heureux, se retourner sur son passé et construire, disons, un récit heureux, on se sent mieux, sa vie psychique, sa santé psychique gagne, et on est plus optimiste sur l'avenir aussi. Donc il y a beaucoup d'excellentes raisons d'essayer de collectionner des beaux souvenirs.
Quand on demande à un adulte d'âge très mûr de quoi il se souvient, eh bien il y a de fortes chances qu'il évoque un événement qui s'est produit entre sa 15e et sa 30e année. On appelle ça le pic de réminiscence, McViking, pic de réminiscence.
Un pic de réminiscence, en effet. Vous demandez à quelqu'un qui a 80 ans, par exemple, de raconter ses souvenirs et ses souvenirs les plus heureux. Quand on leur demande de dater ses souvenirs, effectivement, une grande portion de ses souvenirs ont lieu dans les années formatrices, c'est-à-dire entre 15 et 30 ans, pendant ce fameux pic. Pourquoi ? Parce que pendant ces années-là, c'est là que, certes, c'est les années formatrices où l'identité se construit, mais c'est aussi pendant cette période-là que les premières expériences, les premières fois ont lieu, le premier baiser, premier appartement, premier métier, et là, les premières fois restent ancrées dans la mémoire, alors qu'à mon âge, dans les années 40, même à 50, 60 ans, il y aura beaucoup moins de premières fois, statistiquement, et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle on a l'impression que le temps s'accélère avec l'âge, les années filent à toute vitesse.
Pourquoi riez-vous, Christine Appelé-Douel ?
Parce que j'ai vu votre petit regard en coin, mon cher Ali, qui se tournait vers moi et qui suis beaucoup plus âgée que vous.
Non, pas du tout, à peine plus.
Et donc, je me doute bien que ça vous a amusé en vous demandant si moi, j'avais encore le moyen d'avoir de bons souvenirs, malgré ma mémoire défaillante. Mais oui, je vous rassure, j'en ai plein, et je peux même vous en donner quelques-uns, des récents. Nous avons passé, je m'en souviens très bien, un très heureux et en même temps un peu inquiet moment, tous les deux, dans votre maison, dans la maison que vous avez décidé finalement d'acheter. Et ce moment-là, parce qu'il y avait des tas de choses, le soleil, les arbres, la maison elle-même, les questions que vous vous posiez, est resté inscrit. Donc c'est très récent, ça date de quelques mois. Et puis il y en a bien d'autres, des repas heureux, plein, j'en ai plein, tout le temps.
On se souvient, McViking, très fort de ce qui est nouveau, inédit, singulier, et vous nous délivrez un conseil très simple. Au moins une fois par an, allez dans un endroit inédit. Alors ça peut être à l'autre bout du monde, ou plus simplement tout près de chez soi.
Mais oui, et d'ailleurs, ces visites ou ces expéditions n'ont pas besoin nécessairement d'être géographiques, elles peuvent être gastronomiques. On peut être dans un restaurant, goûter un nouveau plat. Ça c'est une nouvelle expérience, une nouveauté qu'on peut découvrir. Moi, j'en ai fait justement l'expérience cet été. Je suis dans un restaurant étoilé de Michelin au Danemark, et il y avait un menu dégustation avec 16 plats. Et l'un d'entre eux, c'était des fourmis cuisinées. Alors, c'est la première fois de ma vie que je mangeais des fourmis. C'était probablement la dernière fois aussi. C'est un goût assez amer. Enfin, c'est un souvenir qui restera. C'est le seul, d'ailleurs, qui me reste de ce repas de 16 plats. Donc, l'idée, c'est de créer quelque chose comme ce que j'appelle dans mon livre le pique-nique Apollo. Le 20 juillet, vous allez comprendre. Le 20 juillet, vous invitez vos amis, votre famille, et vous demandez à vos amis, à votre famille, chacun d'apporter un plat ou un ingrédient, quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté. Donc pour eux, ce sera une première fois. Et pourquoi le 20 juillet? Parce que c'est la date anniversaire de l'alunissage, de la mission Apollo, où l'homme a marché sur la Lune. Donc on associe la date, parce que, par exemple, dans la presse, le 20 juillet, on parlera de l'anniversaire de l'alunissage, et ça va déclencher le souvenir de ce pique-nique Apollo où on a découvert ce nouveau plat en compagnie d'amis ou de famille. Et avec ou sans fourmis d'ailleurs.
Et pendant ce pique-nique, pendant ce bref instant de bonheur, il sera essentiel d'être à l'écoute de tous ses sens.
C'est essentiel, effectivement, d'être au contact de tous ces sens, parce que le monde, on le découvre à travers nos sens. Une mémoire peut être associée à un goût, à un parfum, à un son, à une couleur. Et Andy Warhol, par exemple, avait bien compris ça, puisque ce qu'il faisait, c'est qu'il se servait de la mémoire olfactive. Il portait le même parfum 3 mois d'affilée, et puis ensuite, il arrêtait complètement de le mettre, et il conservait un véritable musée de flacons de parfums, musée des parfums. Et s'il voulait revisiter le printemps 1982, il n'avait qu'à ouvrir le flacon, humer le parfum et être transporté dans le temps. Donc on peut avoir recours à ses sens pour retrouver des souvenirs.
Christine Lapelle-Edouelle, on pense évidemment à la mémoire involontaire chez Proust, évidemment,
ah oui,
quand quand le narrateur trempe une madeleine dans une infusion de thé ou de tilleul.
Selon, et qui lui permet d'évoquer instantanément, de retrouver instantanément des souvenirs heureux de son enfance. Et ça, c'est vraiment la mémoire sensorielle, c'est absolument marqué. Et d'ailleurs, vous parlez des parfums, on a des souvenirs de parfums extraordinaires. Les parfums se marquent et on les reconnaît. Par la suite, on peut reconnaître le parfum, par exemple, de sa mère. Moi, ça m'est arrivé dans le métro de soudain sentir le parfum que portait ma mère et d'avoir immédiatement son visage qui m'apparaissait. Et j'ai noté une chose délicieuse dans votre livre où vous parlez d'une personne qui décide de porter un parfum qu'elle a choisi une fois dans sa vie, le jour de son mariage. Et donc, le souvenir de son mariage est pour toujours associé à cette odeur. Je trouve ça, c'est une idée merveilleuse.
On verra dans quelques instants comment fonctionne la mémoire olfactive avec la neurobiologiste au CNRS Claire Martin. Mais en attendant, on retrouve notre camarade Julia Foyce, pas son genre.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui. Mais maman, j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et tu réclames le droit de vivre, voilà.
La chronique passe son genre avec oui. Julia Foyce.
Oui,
j'aime bien
ça.
Prendre cette voix quand je suis avec
oui,
vous.
Oui, je vois ça.
Et on va évoquer. Enfin, c'est une question qui évoque pas forcément des bons souvenirs chez beaucoup d'hommes.
Ah, ça dépend. Ça pourrait même faire hurler de joie Priya Palier, peut-être même de soulagement. Imaginez que vous soyez le dieu des plaisirs et de la chair. J'ai dit, imaginez, on se calme. Hein.
Merci beaucoup.
Vous n'aimeriez pas, vous aussi, parfois être un humain lambda avec ses instants de faiblesse, ses petites touches de vulnérabilité. C'est Raymond Domenech du dessous de la couette. Oui, l'homme du quand ça veut pas, ça veut pas. Eh ben, figurez-vous que parfois, pour eux, les humains lambda, ça veut pas. Je vais le dire tout bas. Il paraît que c'est gênant. Il est arrivé à un tiers des hommes d'avoir joui avant même d'avoir pénétré. Oui, et 2 sur 3 l'ont fait juste après. Alors, de vous à moi, on n'est pas à quelques secondes près non plus, hein, ça change pas grand-chose au problème. Problème d'autant plus épineux, d'autant plus vicieux qu'il en est un pour eux qui donc se font des nœuds au cerveau avant même d'avoir commencé à envisager éventuellement de vouloir se mettre à pénétrer. Et on le sait, qui prend le départ avec un peu d'anxiété se retrouve à l'arrivée en débandaison assuré. Or, 63% des Français sont préoccupés par leur capacité à se retenir de jouir. Ce sondage IFOP le confirme. Les hommes vivent avec un Priap dans l'oreillette, un Jiminy Cricket de la quéquette, mauvaise conscience de l'impuissance qui leur répète « Tu es un homme, tu es un guerrier, fier et vaillant, la nuit, le jour. Au garde à vous, toujours et toujours conquérant sur le marché du sexe, tu vas débouler à la main ton épée, ta lance, ce que tu veux, mais bien dressé, tu avances et puis tu l'attrapes par les hanches et puis chiale pas, t'es pas une gonzesse, merde !» Bref, depuis la nuit des temps, la virilité se pèse, se mesure,
se jauge et s'évalue, chronomètre à la main, tableau des médailles dans la tête, champion olympique de la galipette, Usain Bolt de la levrette, sous la douche, on compare les centimètres dans les vestiaires, on aligne les kilomètres et d'histoire, où on a évidemment chopé, et bien sûr qu'on a bandé, et surtout on a duré, 5 minutes douche compris, c'est le pire qui puisse nous arriver. Alors quand ça veut pas, eh ben on se tait.
Sauf que c'est en train de changer, Julia Foyce.
Une autre étude IFOP en mai dernier, 62% des hommes ont déjà eu des doutes sur leur capacité à avoir une érection. Et c'est une très très bonne nouvelle, ça. Et le tiers d'éjaculateurs précoces. Alors ok, pas forcément sur le moment et pour personne, on est d'accord. Mais n'empêche, ça y est, on s'intéresse à la sexualité masculine, on la questionne. Et ça, c'est très nouveau. La grande inconnue, le vrai continent noir, c'est elle, en fait. À force d'être permise, voire encouragée, voire glorifiée, en fait, on l'a posée là et puis on l'a oubliée. Les femmes, elles, ont eu cette chance un peu paradoxale. Elles se sont bagarrées pour avoir droit au désir et accès au plaisir. Elles ont demandé des comptes, elles ont demandé pourquoi. Alors tu interroges, alors tu discutes au besoin, tu descends dans la rue. Et alors ce pourquoi tu te bats devient un sujet en soi, digne d'intérêt parce qu'il est interdit. Or, si on commence à se rendre compte que pour les hommes aussi, il y a des interdits, des tabous, des zones d'ombre, alors on peut commencer à réfléchir. Alors la sexualité devient tout petit peu plus intéressante que le simple emboîtement mécanique des corps. Et ça, c'est aussi l'effet MeToo. Depuis 2 ans, bientôt, jour pour jour, les femmes disent que cette sexualité-là, que ces rapports de force-là entre les hommes et les femmes, ça ne leur va pas. Par ricochet, on commence à se demander si, en face, tout va vraiment si bien que ça. Des hommes qui, à leur tour, disent qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne veulent pas, ou alors pas maintenant, ou alors pas comme ça. Ce sont des hommes qui leur emboîtent le pas pour refuser et l'assignation à résidence et l'injonction à la performance. Un peu comme si on tenait là le prologue d'un autre monologue, pas celui du vagin, mais celui du pénis. Et c'est la condition sine qua non pour que surgisse enfin le dialogue entre les genres, entre les sexes. La discussion a commencé par cette satanée éjaculation et cette sacrée pénétration. Oui, c'est aussi ce que montre cette étude, on est encore tous très très convaincus hein, que la sexualité tient en un pénis, un vagin et une introduction, d'où la pression à l'érection, d'où l'éjaculation précoce en fait. Mais alors là, attention, breaking news Ali, quitte à se poser des questions, vous savez quoi, la sexualité c'est peut-être bien plus et bien mieux que ça.
La chronique Passons Genre, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Moufasse, et bravo à l'excellente traduction de Robert Wolfenstein qui a relevé le défi.
Je suis fasciné, cet homme a deux cerveaux, vous êtes du gars two brains.
Qui a relevé le défi de traduire votre chronique à Meg Viking. Vous vous sentez concerné Meg Viking par la chronique de Julia?
What a question. Disons
que ça m'a rappelé des choses qu'on trouve souvent dans notre travail de recherche, c'est que nous autres êtres humains sommes des êtres sociaux qui avons tendance à nous comparer les uns aux autres. Donc lorsqu'on voit par exemple l'incidence de la sexualité sur le bonheur, ce qui compte apparemment, c'est pas nécessairement la quantité d'activité sexuelle objectivement. Ce qui compte surtout, si l'on se dit que vous faites l'amour plus souvent que votre voisin, c'est ça qui vous rend heureux.
Even if it's bad sex.
As long as it's more. Même si c'est bien, tant que vous en avez plus.
Or great. Yeah. So maybe if you have thin walls.
Peut-être qu'il y a un élément qualitatif. Hein, si vous avez des parois fines, dont on n'existe pas chez les voisins.
Julia Foyce, le programme de Passons Genre demain à 20h.
Oui, et ben justement, MeToo un jour, MeToo toujours. 2 ans après, quasiment, hein, après le début de la déferlante, on va se poser les questions. Est-ce que nos représentations sur le viol ont bougé? Je vous donne un début de réponse. En fait, c'est non.
Ouais, non. Allez, dans quelques instants, on s'intéresse à la mémoire olfactive. Standard ouvert au 01 45 24 7000.
Planche,
cou,
couteau,
bijoux,
bouteille,
sous,
bibelot de Lourdes,
marée haute,
arithmétique,
Noël,
Père Noël,
tabac,
obus,
un passant qui pue,
la nuit, cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui. Pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache.
Le poing d'un mec sous, écrasé sur une bouche.
Carton,
citron,
étron,
pinson,
bouton,
dindon,
houlon,
gazon,
avion,
majesté,
vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui.
Pour qu'il pleuve sur lui.
Tout s'efface lentement. Tout lentement. Tout finit comme un os.
comme un os. Le temps est si doux. Grêle,
toi,
bruit,
Barbara,
la foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art.
Kadhafi campant dans les jardins de l'Élysée, moi,
dégustant mon sorbet cassis devant la télé.
Nu,
clope,
rideau,
paradis.
Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui.
Ça cueillait des mains.
Le sexe pointu du chien des voisins qui nous faisait machin.
L'arrivée magique des kiwis.
Le mariage inattendu de Romola de Pulski.
Avec Nijinsky.
Le journal local.
Le journal familial.
Le savon de tout.
Tes commentaires et Laurent sur la terre qui tourne.
Entre ta fait tout. Tout s'efface lentement. Tout lentement. Donne-moi ta main. Allons descendre, sentir ce jasmin en ma démarche. Le temps est si doux.
Bertrand Belin et Barbara Carlotti interprétaient lentement.
France Inter, grand bien vous fasse.
Comment se créer de beaux souvenirs? C'est la question que nous pose notre invité, le Danois Meg Viking. Avec nous, Claire Martin, bienvenue. Vous êtes neurobiologiste au CNRS. Alors, il y a quelques minutes, on s'intéressait à la mémoire olfactive. Pourquoi est-elle aussi puissante, cette mémoire olfactive, Claire Martin?
Oui, bonjour. Alors en fait, comme on en parlait tout à l'heure, la mémoire olfactive, c'est une des plus puissantes pour évoquer la mémoire épisodique, donc la mémoire des événements qu'on a vécu. Et cela peut s'expliquer par le fait que, par la façon dont le cerveau est organisé en fait. Donc dans le cerveau, l'information parcourt des chemins entre différentes zones qui s'occupent d'informations différentes. Et il se trouve que le chemin entre l'information qui vient du nez, donc des odeurs, et les informations et les zones du cerveau qui traitent la mémoire et les émotions est très très court par rapport au chemin que font les autres sens vers les zones de la mémoire et des émotions. Et comme l'a dit tout à l'heure Alice Gomez, la mémoire est très liée aux émotions, et donc l'odeur pourrait faire une sorte de contexte ou d'atmosphère qui permet de mieux se souvenir des événements qui sont vécus. Et autre chose que, donc Alice Gomez le disait aussi tout à l'heure, la mémoire est filtrée par un système attentionnel. Or, il se trouve que les odeurs ne sont pas filtrées justement par ce système attentionnel. Donc, l'odeur est plus facilement mémorisable. Et souvent, l'odeur évoque non pas... Donc, on l'a dit, l'odeur évoque des souvenirs très anciens et très émotionnels, donc avec une grosse dose émotionnelle. Et donc, quand on sent une odeur, on se souvient de tout ce qui va être associé à cette odeur, tout ce qui va être au moment où on a expérimenté cette odeur, tout ce qui va être associé, donc ça va être un épisode, ça va être un repas qu'on a pris dans la maison de sa grand-mère ou des choses comme ça.
Claire Martin, Céline nous dit, il y a quelques jours j'étais à la terrasse d'un café avec ma fille et j'ai senti un parfum qui m'a procuré un intense sentiment de bonheur, mais je ne l'ai pas rattaché à un moment précis du passé. Comment on explique le fait qu'une odeur puisse provoquer du bonheur mais sans que ce soit lié à la mémoire, à un souvenir?
Alors tout à fait, en fait, une particularité de l'odeur, c'est que parfois on peut sentir une odeur, mais on ne prêtant pas vraiment attention. en fait. Mm-hmm. Donc l'odeur va être dans un environnement dont on se souvient, mais on va pas forcément, au moment où on sent l'odeur, on va pas forcément mettre soit un nom dessus, soit même en avoir vraiment conscience. Donc on peut mémoriser un souvenir qui va être formé d'une odeur, d'un moment qu'on vit, d'images, etc. Mais on ne va pas forcément avoir vraiment conscience de cette odeur. Mais pourtant, on l'a quand même mémorisée, cette odeur. Et donc, quand on va la ressentir, on ne va pas pouvoir exactement dire ce qu'on a vécu à ce moment-là, mais le cerveau sait que cette odeur était là et donc va activer des zones des émotions qui vont donc nous procurer des émotions. Mais on ne va pas forcément être capable de mettre des mots dessus.
Merci beaucoup, Claire Martin, d'être intervenue ce matin. Alors, Meg Viking, Claire Martin a évoqué l'attention. L'inattention, c'est la grande ennemie qui nous empêche de nous créer de beaux souvenirs.
It is, I mean, we need attention. It's the very
en effet, l'attention est à la base de la création de souvenirs. Et il est de plus en plus difficile de se concentrer, et justement, parce qu'il y a toutes sortes de sources qui se disputent notre attention, les médias, la pub, tout cela essaie d'accaparer notre attention, et donc il est plus difficile d'avoir d'être de l'attention.
N'oublions pas cette phrase de Samuel Johnson: l'art véritable de la mémoire, c'est l'art de l'attention.
Exactly.
Mais oui. Et effectivement, pensez à la maman polonaise que j'ai évoquée, qui dit, voilà, il faut dire clairement, annoncer les moments, énoncer les moments, saisissez cet instant, donc se forcer à y prêter attention. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir ce que Claire nous a dit sur la façon dont un parfum peut, ou une odeur peut déclencher un souvenir. On associe un goût, un parfum à un événement. Il y a un personnage dans le bouquin, une Espagnole qui est née au début du XXe siècle, qui voulait absolument faire des études universitaires. Elle s'est battue avec son père pour qu'il la laisse y aller. Et donc, elle a fait des études à Madrid dans les années 20. Et elle était chaperonnée par sa tante partout où elle allait. Donc, la tante était à l'arrière de l'amphi en train de tricoter et elle a surveillé. Et après les cours, elle sortait avec sa tante dans une boulangerie pour goûter des Hispanias, qui sont d'une petite pâtisserie espagnole. Et puis bien plus tard, maintenant 97 ans, elle demande à sa petite fille de chercher ses gâteaux, pas parce que ce sont des super gâteaux, mais parce que ces gâteaux lui rappellent justement ses souvenirs très heureux.
Et il n'y a pas que le goût ou l'odeur qui nous permettent de nous créer des souvenirs durables, il y a aussi évidemment l'ouïe. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize. Meg Viking, je diffuse pas ça par hasard. Coolio, Gangsta Paradise, ça vous rappelle instantanément une année, l'année 1995.
It does. Mais oui, mais oui. En 95, je travaillais dans un cinéma. C'était le travail de nuit. Et Gangsta Paradise, c'était cette chanson, mais également
la BO d'Esprit Rebelle avec Michel
Esprit
Pfeiffer.
Rebelle, effectivement, avec Michel Pfeiffer.
Et ça vous rappelle l'état de
vie. Exactly.
Mais oui, and that just takes me instantly back. Mais oui, et ça me transporte à cette époque, ces soirées, ces nuits au cinéma à l'âge de 17 ans.
Et vous montrez dans votre livre que à l'âge adulte, on continue à aimer la musique qui nous a marqué adolescent et qui nous rend forcément nostalgique.
It does. Il y a une énorme étude qui a été faite. C'est des économistes qui se sont penchés sur la question qui retient quelle chanson sur Spotify. Les choix des gens sur Spotify dans tous les thèmes, toutes les périodes des années 60 jusqu'à nos jours. Et ce qui ressort de tout cela, c'est que si on aime une chanson quand on est adolescent, on l'aimera toute sa vie parce qu'effectivement, peut-être qu'en la réécoutant, ça nous ramène à une époque heureuse.
Julia Foyce, la musique qui vous a marqué dans votre adolescence.
Celle-là, évidemment.
Ah oui.
Celle-là, évidemment.
Ah ouais.
Déjà, moi, je suis partie. Moi, je suis en boom, quoi. Moi, je suis en train de pécho, là. Laissez-moi tranquille.
Bonjour, Sidonie. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, comment vous créez-vous de beaux souvenirs, Sidonie?
En fait, j'ai plusieurs méthodes, mais particulièrement en enregistrant sur un dictaphone que j'ai sur mon téléphone des moments, des instants que je veux graver dans ma mémoire pour tout simplement y revenir de temps en temps quand j'ai envie de me mettre dans une atmosphère spéciale et de me remettre un peu dans ce, je vais parler un peu en anglais, dans ce mood que j'ai créé, enfin que j'ai j'essaye de recréer en les réécoutant. Voilà.
Quel est le dernier souvenir que vous avez conservé dans votre dictaphone?
Ah bah justement, vous allez peut-être rire, c'est le petit couac. que vous avez eu juste avant de parler de la thématique de l'émission.
Ouais.
Je me suis dit, il faut que j'enregistre ça, c'est génial, ça arrive jamais sur France Inter, donc il faut que je le fasse.
Ouais.
Et j'ai continué à enregistrer ensuite le reste, parce que justement l'émission m'intéresse beaucoup, et cette thématique en particulier. Mmh. Je voulais rebondir sur cette notion dont vous parlez tout à l'heure, enfin pas vous personnellement, mais sur cette notion de la nostalgie qui serait un peu péjorative. Mm-hmm. Moi, j'ai jamais vu vraiment comme ça. Et au contraire, je trouve que cette nostalgie-là, qui peut ramener des beaux souvenirs, comme dans le film « Se souvenir des belles choses », par exemple, mm-hmm. c'est important de se souvenir des belles choses. Et ça porte et ça fait du bien. Et moi, je me crée plein d'occasions avec ces petits enregistrements, quels qu'ils soient, sur quelques moments que ce soit. Donc, ce serait plutôt une mémoire auditive.
Et est-ce que la photographie, pardon, Sidonie, joue un rôle dans la captation de ces souvenirs?
Aussi. En fait, je m'attache à cette mémoire auditive sur certains moments pour me recréer des images, des vidéos, quelque part, que je me fais dans ma tête sur une captation de ce souvenir par ce son d'enregistrer. Et ma mémoire va être aussi bien visuelle. Une photo va me rappeler un moment entier. Une odeur aussi va me rappeler toute une situation ou tout un souvenir précis. Et voilà.
Merci beaucoup Sidonie pour votre joli témoignage. Meg Viking, pour terminer en quelques mots, pourquoi est-il si important de se raconter nos souvenirs? Ça permet de les fortifier, surtout quand on a vécu de beaux moments ensemble, en famille ou entre amis. C'est important de se raconter nos souvenirs.
Et là, vous aviez l'exemple avec Sidonie qui vous le dit. Elle se livre à des activités nostalgiques qui lui fait du bien et fait du bien à tout le monde. Mais effectivement, c'est des souvenirs partagés qui nous lient les uns aux autres et qui sont importants. Quand je retrouve des amis ou ma famille, effectivement, nous évoquons le passé, des souvenirs heureux que nous avons connus ensemble. Et c'est effectivement le ciment qui nous lie les uns aux autres.
Merci beaucoup, Christy Lapelle-Edouelle, journaliste à Psychologie Magazine. Merci beaucoup Meg Viking, je recommande L'art de se créer de beaux souvenirs, comment créer et garder en mémoire les moments heureux, c'est publié chez First. Merci également Julia Foyce. Demain avec la revue Elle à table, nous vous donnerons quelques pistes pour manger bon, sain et de saison. Allez, dites-nous quelles sont vos bonnes recettes d'automne. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. À suivre Nagui et sa bande originale.